en ce 10 janvier à Rencontre spirituelle, aujourd'hui, une émission bien spéciale. Nous nous posons ensemble, si vous voulez bien, la question « Jésus savait-il qu'il était le Fils de Dieu ?» Ça peut sembler étrange à certaines oreilles, c'est que on se pose de plus en plus cette question dans des revues populaires comme l'Express, le magazine Time, et puis évidemment le Devoir, et etc. Cette question est surgie depuis déjà un bon bout de temps, depuis le début du siècle surtout, et elle traîne ici et là dans des ouvrages. Et comme il y a de plus en plus de films, d'ouvrages, d'études, d'émissions à la télévision sur Jésus-Christ, j'ai pensé que ce serait intéressant d'aborder cette question qui est assez dramatique. L'an dernier, d'ailleurs, j'avais abordé à même date une question qui avait fasciné les gens, c'est-à-dire les croisades. Qu'est-ce que ces croisades? Est-ce que ce sont des criminels qui ont ravagé les pays musulmans et quoi? Les gens avaient beaucoup aimé les mises au point au sujet des croisades l'an dernier. J'espère qu'on appréciera aujourd'hui cette question que je pose. Jésus savait-il qu'il était le Fils de Dieu? Ici Raymond Beaugrand-Champagne. La messe dans toute l'Église catholique commence ainsi aujourd'hui. Une lumière, c'est un passage du psaume 111. Une lumière s'est levée dans les ténèbres pour les hommes au cœur droit. C'est le Seigneur miséricordieux, juste et plein de pitié. Et je crois que ça s'applique parfaitement à Jésus, notre Seigneur. Ce qui enthousiasme d'ailleurs un chrétien, dit le père Découvement dans un très beau chapitre de son ouvrage dont je vous ai souvent parlé, le guide des difficultés de la foi catholique publié aux éditions du Cerf, bien, il dit que ce qui enthousiasme un chrétien, ce qu'il fait vivre, c'est pas des questions comme celle-là. C'est la réponse affirmative, c'est de croire Jésus vivant et ressuscité, Fils bien-aimé du Père, qui vient vivre en chacun de nous sa vie divine. Mais comment l'Église en est-elle venue à prêcher que Jésus était le Fils de Dieu? C'est la question. Il y a un fait historique incontestable. Les tout premiers chrétiens ont vénéré Jésus comme Dieu. Ça, c'est incontestable. Ils l'appellent d'ailleurs Seigneur. Seigneur, ça s'applique à Dieu. Ils en parlent comme d'une personne divine. Une personne divine qui préexistait à son existence terrestre. Bien oui, ils disaient, il est Seigneur. On se trouve ici devant un fait absolument incontesté, reconnu par tous les spécialistes de la Bible. Presque immédiatement après Pâques, après la résurrection, parmi la première communauté chrétienne, l'attitude du fidèle à l'égard de Jésus ressuscité est absolument identique à celle du croyant juif le plus fidèle par rapport à Yahvé. C'est la même attitude. Les chrétiens sont ceux qui invoquent le nom du Seigneur. Et le nom du Seigneur s'applique non plus à Yahvé pour eux, mais à Jésus. On voit ça dans le deuxième chapitre du livre des Actes. C'est écrit, « Tout homme qui fera appel au Seigneur sera sauvé, et il est question de Jésus. » On se convertit au Seigneur Jésus, comme on devait se convertir à Yahvé dans l'Ancien Testament. On voit ça aussi dans le neuvième chapitre des Actes. Hein? Ils se convertirent au Seigneur, c'est dit deux fois. Et alors, on voit en Jésus, c'est-à-dire on croit en Jésus comme on croit en Dieu. C'est clair, clair dans les textes. L'hymne de la lettre aux Philippiens, au chapitre 2, c'est du verset 6 à 11, c'est si beau, ça mérite une mention spéciale, ça. Vous connaissez ça, ceux qui pratiquent. La plupart des spécialistes de la Bible, des exégètes, pensent que Paul cite là une hymne chrétienne déjà connue de ses lecteurs. Puis comme on estime aujourd'hui que cette lettre a été écrite vers l'an 56, je dis bien, donc 25 ans après la mort de Jésus, eh bien cet hymne doit dater des années 50, donc une vingtaine d'années après la mort de Jésus. Or, elle affirme, là, cette hymne-là, avec une clarté indiscutable que Jésus ressuscité a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'agit du nom imprononçable de Dieu lui-même, afin qu'au nom de Jésus, dit le texte, tout genou fléchisse. C'est un geste d'adoration et d'hommage dû à Dieu seul. Je vous le lis, le texte. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force l'égal de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru dans une situation d'homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et il continue en disant qu'il faut que, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Car il préexistait à sa venue sur terre et un grand exégète protestant, Martin Engel, pense que cette doctrine de la préexistence du Christ était déjà bien établie une quinzaine d'années après la résurrection. Une quinzaine d'années. C'est dans son livre « Jésus, Fils de Dieu » paru aux éditions du Cerf. Et avec la grande majorité des exégètes, des spécialistes, là, ils pensent que les versets 6 et 7 là, de ce texte de la deuxième épître aux Philippiens, là, affirme la préexistence de la divinité de Jésus. Je vous cite ça. « Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant la condition d'esclave et devenant semblable aux hommes. » C'est ce que je viens de vous lire, voyez-vous. Il y a d'autres textes de saint Paul aussi qui affirment cette préexistence. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 8, c'est écrit « Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui tout vient à l'existence, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. » Seigneur Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous sommes. Ce texte ne se présente pas comme un enseignement nouveau. Paul devait donc, vers l'an 49, c'est très tôt, se professer déjà cette doctrine en arrivant à Corinthe, à savoir que le Christ a collaboré à la création du monde. Vous connaissez la libéralité de notre Seigneur Jésus-Christ, dit-il. Comment de riche il s'est fait pauvre, afin de vous enrichir par sa pauvreté. C'est une affirmation très très voisine du contenu de ce que je vous ai dit dans l'Épître aux Philippiens, en parlant de la richesse du Christ, mais saint Paul ne peut pas avoir en vue que la préexistence céleste. Car sur terre, Jésus a toujours été pauvre. On retrouve aussi la même idée dans l'Épître aux Galates, l'Épître aux Romains, etc., etc. Je vous fais grâce de tout ça, c'est trop compliqué. Ça permet de toute façon à Rudolf Bultmann, le grand théologien protestant qui est demeuré protestant jusqu'à sa mort, qui concluait, lui, la doctrine selon laquelle Jésus-Christ est le Fils de Dieu préexistant, devenu homme, là, il existait avant puis est devenu homme, est considérée par Paul comme certaine. Et l'hymne que je vous ai cité de l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, antérieur à Paul, prouve qu'il n'est pas le premier à l'avoir introduit dans la pensée chrétienne. C'est pas lui qui a commencé à parler de ça. Il y a une question, mais l'origine de cette conviction, et contrairement à ce qu'affirme Bultmann, là, il faut penser, je pense, moi aussi, que cette doctrine n'a pas pu être inventée par les premières communautés chrétiennes, comme il y en a qui disent. Bon, c'est très à la mode de dire ça, ah, c'est les communautés chrétiennes qui ont inventé ça, Jésus n'a jamais pensé ça. Mais au début du siècle, ces exégètes se plaisaient à dire que la divinisation, comme on dit, de Jésus, vous savez, il a été divinisé par les chrétiens, il n'était pas Dieu. Elle s'était accomplie dans les communautés chrétiennes de langue grecque qui étaient issues du monde païen. Pourquoi? Parce qu'elle gardait le souvenir là, des hommes divins. Vous savez, les hommes divins du paganisme, des gens qui étaient mortels puis qui étaient divinisés après leur mort. On parle comme ça de l'empereur Auguste. Alors, la doctrine de la préexistence du Christ avant sa naissance serait né dans le même milieu, dit-il, ça fait son chemin, ça. Ça aurait été facilité par la croyance grecque en la métempsychose, c'est-à-dire en la réincarnation. Bon, aujourd'hui, cette explication est presque universellement rejeté, on pense plus à ça. La foi des premiers chrétiens en la divinité de Jésus n'a pas grand-chose à voir avec la divinisation de certains hommes en milieu païen. Faut pas exagérer. D'autre part, et surtout, la foi chrétienne était largement répandue dans les communautés chrétiennes vers les années 50, ce qui situe son origine plusieurs années auparavant, à un moment là où l'influence idéologique des chrétiens d'origine grecque était nulle. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, la quasi-totalité des dirigeants de la jeune Église étaient d'origine juive. Bien oui, d'origine juive. Notre religion est une religion fondée par des juifs. Et quant à la divinisation d'un homme dans un milieu juif, ben il faut... C'est pour rêver. C'est absolument impensable. Aucun homme, si grand fût-il, n'avait été présenté comme recevant le nom au-dessus de tout nom. Pas même Abraham, même Moïse. Aucun patriarche, aucun prophète. Fléchir les genoux devant lui aurait été blasphématoire. Il existait dans les textes de la Torah présentant la parole de Dieu. Il sait la sagesse de Dieu, mais cette sagesse de Dieu dont il est question, on lit ça des fois dans la messe, ça vient des livres des Proverbes, la sagesse, etc. Ce sont des textes qui ont été utilisés par le Nouveau Testament pour mieux faire comprendre le mystère du Christ, mais dans ces pages-là, là, quand il s'agit pour la parole puis la sagesse, c'est des attributs divins personnifiés, c'est tout. C'est pas une personne. C'est Dieu lui-même. En somme, pour respecter la susceptibilité religieuse des Juifs, faut se rappeler que les armées romaines avaient l'ordre de ne pas entrer dans Jérusalem avec des étendards qui portaient le portrait de l'empereur divinisé. Puis les Juifs étaient dispensés de rendre un culte à l'empereur. Tellement tout ça le répugnait. Et lorsque Caligula veut imposer son culte aux Juifs d'Alexandrie, en Égypte, puis de Terre Sainte, en Israël, quoi, en Palestine, il se heurte à leur résistance désespérée. C'est raconté en détail, ça, par le philosophe juif Philon d'Alexandrie, puis l'historien Flavius Joseph, là, dont j'ai les œuvres complètes ici. Alors, on peut donc conclure qu'il s'est passé quelque chose d'exceptionnel pour que des Juifs croyants, chrétiens en viennent à vénérer Jésus comme Dieu. Que s'est-il passé? Il y a trois hypothèses qui ont été proposées. Je vais en retenir deux, à savoir que Jésus ne le savait pas, mais ses disciples l'ont découvert après la Pentecôte, puis à mon avis, ça tient pas. Et la seule hypothèse solide, c'est Jésus le savait, mais ne l'a clairement révélé qu'à un petit groupe de disciples. À la messe aujourd'hui, j'y reviens. À la première lecture, Saint Jean commence comme ça. C'est beau aller à la messe tous les jours. Hein? On nous présente des textes magnifiques qu'on peut lire ensemble, méditer ensemble et communier. Mes bien-aimés, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Bien oui. Jésus, dit-on dans certaines groupe, là, ne savait pas qu'il était le Fils de Dieu, mais ses disciples l'ont découvert après la Pentecôte. Bon, attaquons-nous à ça. Un certain nombre d'auteurs émettent aujourd'hui l'idée que le Christ n'a pris que progressivement conscience de son identité, ou même qu'il n'a jamais su avant sa résurrection qu'il était le Fils unique de Dieu. Et chaque fois qu'on trouverait dans l'Évangile, en particulier dans l'Évangile de Saint Jean, comme je viens de vous le lire, une parole de Jésus manifestant... c'était une épître que je viens de vous lire. Une parole de Jésus qui manifeste la conscience qu'il avait de ne faire qu'un avec son Père, là, comme vous savez au chapitre 10 dans l'Évangile de Saint Jean, ici Jésus dit « Moi et le Père, nous ne faisons qu'un ». Alors il faudrait considérer cette parole, puis les autres, comme inauthentique, comme une expression qui aurait été forgée par la communauté chrétienne primitive là, pour exprimer la foi qu'elle avait alors acquise de la divinité de son maître après la Pentecôte. Et d'après cette thèse qui traîne partout, je suis fatigué souvent de lire ça, d'après cette thèse, mais les apôtres auraient compris, sous l'influence de l'Esprit envoyé par le Christ, ce que celui-ci ne savait pas lui-même avant sa résurrection, à savoir qu'il était Dieu. Ce qu'il faut pas écrire, mais enfin. Pour justifier cette idée, on se réfère au sentiment de déréliction. Vous savez, le sentiment de déréliction éprouvé si souvent par les saints. Alors dans leur nuit spirituelle, ils avaient l'impression d'être loin de Dieu, abandonnés par lui. Ah, ils avaient en même temps conscience de participer au mystère de l'agonie du Christ. Et c'est donc, dit-on, que le Christ lui-même, à Gethsémani, a connu la même épreuve, mais à un niveau infiniment plus profond. Le Christ a dû expérimenter, dans son cœur d'homme, l'absence douloureuse de Dieu, ce qui suppose qu'il n'avait absolument pas conscience de ne faire qu'un avec lui. Il ne savait pas qu'il était Dieu. C'est ce qu'on raconte. Cette façon de comprendre les textes, là, c'est en réalité influencé par une façon de comprendre l'homme, une certaine anthropologie qui a été mise en avant au cours des dernières années. Ça fait des ravages épouvantables. Pour être vraiment homme, dit-on, il faudrait connaître l'angoisse, être complètement désarçonné par l'énormité du mal dont souffre l'humanité, être profondément troublé à la pensée de son propre avenir et de sa mort. C'est à cette condition-là qu'on peut être vraiment un homme, dit-on. L'Évangile de Marc dit d'ailleurs explicitement qu'au Jardin des Oliviers, Jésus a été saisi, vous savez, de frayeur et d'angoisse. Hein, c'est au chapitre 14. Hein. Cela suppose que, non seulement Jésus ignorait son identité de fils de Dieu, mais qu'il ignorait l'heureux dénouement du drame dans lequel il se trouvait engagé. Il ne savait pas qu'il allait ressusciter. Étranges opinions, hein? Il faut donc pareillement considérer comme inauthentique, disent-ils, ces gens-là, les passages de l'Évangile dans lesquels on voit Jésus annoncer sa résurrection d'entre les morts. On voit ça dans Marc chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, bon. Telle est, dit-on, la présentation qu'il faut désormais donner à l'existence terrestre de Jésus. Bon. Il dit, il faut donc abandonner aussi l'idée que Jésus était doté sur terre de la connaissance infuse que les prophètes avaient, qui lui aurait permis là, de prévoir ce qui allait lui arriver, l'arrestation, le reniement de Pierre, la trahison de Judas, la remise aux autorités romaines, la crucifixion, la résurrection. Il ne pouvait pas savoir ça. Imaginez. On est même allé jusqu'à dire que les souffrances, l'agonie et la mort du Christ devenaient insignifiants si Jésus en connaissait d'avance l'issue. On disait finalement, il est grand temps de présenter un Jésus profondément humain. Toute autre présentation de l'Évangile empêche l'homme aujourd'hui d'y adhérer, c'est ce qu'ils disent. On va tâcher ensemble de regarder ça pour voir s'il y a une part de vérité qu'on peut retenir dans toute cette hypothèse et puis, à mon avis, son outrance. Bon, la part de vérité. Ce que l'on peut d'abord admettre, là, sans difficulté, tous ensemble, me semble, c'est que les apôtres ne sont entrés qu'après la Pentecôte dans la compréhension ou l'intelligence plénière, là, du grand mystère du Christ qu'ils avaient côtoyé pendant plusieurs années. C'est l'Esprit qui les a introduits, l'Esprit Saint, comme Jésus lui-même leur avait promis, dans la vérité tout entière, avait dit Jésus. Même Jean, Saint Jean, qui, on va le voir, est entré plus vite dans l'intelligence du mystère de son maître, n'a compris qu'après la Pentecôte. Toute la signification de ces paroles, il les a comprises à ce moment-là. Après avoir cité le cri là, lancé par Jésus en pleine fête des tentes, vous vous souvenez, « Si quelqu'un soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Et l'évangéliste Saint Jean avoue n'avoir pas saisi sur le champ la portée de cette phrase. Jésus parlait de quoi? De l'Esprit Saint, que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. On peut également tomber d'accord avec les exégètes qui repèrent des seuils dans la prise de conscience par Jésus de sa mission, son baptême par Jean, la mort de celui-ci, la nuit de prière qui a suivi la multiplication des pains. Tout ça, ça a été autant d'étapes parmi d'autres qui ont permis au Christ de discerner davantage la volonté du Père sur lui. Bon, on peut concéder peut-être ça. Il est donc tout à fait hors de question, en tout cas, de se représenter Jésus comme connaissant d'avance, dans ses moindres détails, le scénario de son existence, prévoyant des années à l'avance le jour où il donnerait à ses apôtres tel enseignement sur la prière ou sur l'Eucharistie. Le père Descouvement dit qu'on n'insistera jamais trop sur les aspects très humains de Jésus que les évangiles ne manquent pas de nous présenter. Hein. On voit bien son sommeil, sa fatigue, ses prières, ses déceptions aussi, puis ses souffrances, puis son angoisse. C'était pas des faux semblants, il faisait pas semblant. Mais il faut lire tout l'Évangile. Et il faut pas objecter aussitôt, « Ah, cette parole est trop forte, Jésus ne l'a certainement pas prononcée, ou bien ce miracle est trop spectaculaire, Jésus ne l'a certainement pas accompli. » Je vous ai déjà raconté des miracles spectaculaires qui sont arrivés dans ce siècle-ci. Pierre de Ruder en particulier, je vous ai tout raconté ça. Miracle est survenu en Belgique, par Notre-Dame de Lourdes. Or, Jésus des Évangiles les comporte des traits absolument... étonnants, le Jésus des Évangiles. Rappelons simplement le contraste saisissant entre le sens merveilleux de Dieu qu'il possédait puis l'absence totale de sentiment de culpabilité qu'il caractérisait. Ici, Jésus ne connaissait pas d'avance tout le dénouement de sa vie. Il a reçu de son Père, au fur et à mesure qu'il en avait besoin, la connaissance de ce qu'il devait faire, et même, en certains cas, de ce qui allait lui arriver. Bien oui, cette docilité du Christ à la volonté du Père le rend encore plus proche de nous. Nous aussi, nous avons à nous tenir à l'écoute des inspirations de l'Esprit-Saint pour connaître quoi? Pour connaître ce que le Père attend de nous. Ce que le Père attend de nous, c'est... Il l'attend dans son amour. C'est ainsi que le Christ a pu apprendre, à un certain moment d'une science infuse, qu'il devait être trahi, livré aux mains des païens, mourir et ressusciter. Est-ce vraiment dépouiller l'homme de sa dignité que de le faire avancer vers un but connu d'avance et distant seulement dans le temps? Un auteur, le père Dreyfus, qui pose cette question. Si la réponse est affirmative, ben alors, tous les pères de l'Église, tous les saints, tous les théologiens de l'Antiquité, du Moyen-Âge et des temps modernes jusqu'à la moitié du 19e siècle, tous ont dépouillé Jésus de sa dignité d'homme, et non seulement les catholiques, mais les théologiens, les docteurs du protestantisme, de l'orthodoxie, car l'affirmation Saint-Jean pour eux était claire et limpide, Jésus sachant tout ce qui allait lui arriver. C'est Saint-Jean qui le dit. Serions-nous au XXe siècle supérieurs aux évangélistes eux-mêmes, et non seulement à Saint Jean, mais aussi à Saint Marc, Saint Matthieu, Saint Luc, qui ont cru, puis enseigné naïvement que Jésus avait prédit le reniement de Pierre, la trahison de Judas, les outrages, la flagellation, les crachats, la mort sur une croix et la résurrection? Il faut bien y penser. Et nous pensons aussi, et surtout, que Jésus connaissait dès sa toute petite enfance, tout au fond de son cœur, son identité divine. Il ne l'a appris progressivement. Il ne l'a pas appris progressivement. Il ne l'a pas appris par apprentissage. Qui aurait pu le lui apprendre, d'ailleurs? Il l'a su immédiatement en vivant dans sa conscience ce qui constituait l'essence même de sa personne divine, c'est-à-dire sa relation et son union intime avec le Père. Hein? Oui, il le savait déjà. Il le savait, et on le voit dans ce texte que beaucoup d'exégètes rejettent, qui est celui de Jésus, parmi les sages, au temple, au moment de son bar mitzvah, 12 ans. Ses parents le cherchent, et il dit, « Ne saviez-vous pas que je devais être aux choses de mon Père? » Je crois qu'il y a là une vérité contenue dans ce texte inspiré. Et les évangiles sont inspirés. Et ces textes que l'on rejette comme n'étant pas authentiques, à mon avis, demeurent inspirés, ils veulent traduire des réalités que j'appellerais concrètes sur le plan spirituel. Alors, on va prendre la pensée de Hans Urs von Balthasar, que j'ai eu la chance de rencontrer à Bâle il y a déjà plusieurs années, et qui est malheureusement décédé, ce grand théologien. Il dit que le Christ a une vision immédiate de la mission définitive et universelle dont il est investi. C'est une vision comme ça, immédiate. Ce n'est pas dans les Écritures de l'Ancienne Alliance, là, dans la Bible, qu'il prend progressivement conscience de sa mission. C'est pas en lisant ces textes-là. C'est au contraire à la lumière de sa propre mission qu'il découvre que ces traditions-là dans la Bible ne peuvent être interprétées correctement en aucune autre lumière que la sienne, et il le dit bien, c'est dans l'Évangile de Saint Jean, chapitre 5, il le dit, Jésus, « Vous scrutez les Écritures dans lesquelles vous pensez avoir la vie éternelle. Or, ce sont elles qui me rendent témoignage à moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Ah, si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, car c'est de moi qu'il a écrit. Alors la certitude qu'il habite Jésus, d'être le Fils bien-aimé du Père, occupe tout le champ de sa conscience. Il le sait. Jésus savait dès le premier éveil de sa conscience qu'il était le Fils bien-aimé du Père. Et il l'a su jusqu'au bout. Le cri du Christ au calvaire ne signifie pas que le crucifié ne se sentait plus le Fils du bien-aimé. Pas du tout. Il n'est pas désespéré. Signifie pas davantage que le Père lui semblait lointain ou absent. C'est au contraire le cri de l'enfant qui interroge son Père plein de tendresse. Hein? Pourquoi m'as-tu abandonné ainsi à la méchanceté des hommes? Il parle en tant qu'homme, là. Pourquoi laisses-tu une bande de vauriens m'entourer et me percer les pieds et les mains? Alors, il suffit d'ailleurs de lire le psaume, parce qu'il prie sur un psaume, de lire le psaume en son entier pour s'apercevoir qu'il se termine par un cri d'espérance, ce psaume-là. Les dernières paroles de ce beau psaume, c'est « Tu seras ma louange dans la grande assemblée, la terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. » Parce que Jésus n'est pas, pas un amnésique, c'est pas un homme qui n'a pas de mémoire. Il oublie pas que ce qu'il a dit à ses apôtres il y a peu de temps, là, il n'oublie pas ça. « Ceci est la nouvelle alliance en mon sang. » Il l'a dit la veille. « Versée pour vous et la multitude des hommes. » Les prêtres nous disent ça à la messe. Ils accomplissent ce miracle extraordinaire auquel nous sommes conviés, gratuitement d'ailleurs. Mais la certitude d'offrir un sacrifice d'une fécondité inouïe, ça ne l'empêche pas de souffrir atrocement. Ça ne l'empêche pas ça, d'interroger son Père, « Pourquoi, mon Dieu, tant de souffrance ?» Loin de contredire l'interprétation que donne le Père des Couvements, l'expérience des mystiques la renforce plutôt. Hein. Dans la nuit des mystiques, dans leur sentiment d'abandon, de déréliction, ils savent tout au fond d'eux-mêmes qu'ils restent dans la main de Dieu. C'est ce qui fait la joie des grands souffrants qui ont la foi. À bien plus forte raison, le Christ demeurait-il profondément uni à son Père, hein, tout en éprouvant, jusqu'à la nausée, puis à suer du sang, combien le péché nous abîmait, tout en torturant Dieu, tout en le torturant lui. C'est Sainte Thérèse d'Enfant Jésus qui avoue, avec simplicité, comprendre quelque peu ce mystère de la sainte agonie par l'expérience de sa propre nuit. Oui, elle est dans une nuit spirituelle, elle le fait en citant un commentaire de Monsieur de Lamennais, qu'elle a trouvé dans son imitation de Jésus-Christ. Parce que Lamennais a traduit l'imitation de Jésus-Christ, puis a fait des commentaires. « Notre Seigneur, dit Lamennais, au Jardin des Oliviers, jouissait de toutes les délices de la Trinité. » Et pourtant, son agonie n'en était pas moins cruelle. « C'est un mystère, mais je vous assure que j'en comprends quelque chose, » dit Thérèse de l'Enfant Jésus. « J'en comprends quelque chose parce que j'éprouve moi-même. » Puis le 28 août 1897, il va mourir bientôt. Un mois avant de mourir, en fait. Elle revient sur la coexistence qu'elle ressent en elle, là, des ténèbres d'une part, puis de la lumière. Tout en désignant la grotte qui se trouve dans le jardin du Carmel, au bout de l'allée des marronniers, elle confie à Mère Agnès, là. « Tenez, voyez-vous là-bas le trou noir où l'on ne distingue plus rien? C'est dans un trou comme cela que je suis, pour l'âme et pour le corps. Ah oui, quelles ténèbres! Mais j'y suis dans la paix. » Oui, la paix que connaissent les mystiques au cœur de leur nuit peut nous faire entrevoir ce que Jésus a vécu au Jardin des Oliviers. Car tout en goûtant la joie d'être le Fils bien-aimé du Père et de sauver le monde, il voyait toute l'étendue de la misère des hommes. Il voyait l'énormité de nos péchés. On peut essayer d'examiner avec sérénité la troisième hypothèse, la deuxième que je retiens, qui nous semble la seule valable, je vous l'ai dit au début de l'émission, pour rendre compte du fait que très vite les apôtres ont proclamé que Jésus était Dieu. Oui, Jésus le savait, mais il ne l'a clairement révélé qu'à un petit groupe de disciples qu'il était le Fils de Dieu. Et si nous regardons de près les textes évangéliques, nous nous apercevons que Jésus a eu des attitudes et qu'il a prononcé des paroles qui manifestaient une conscience aiguë. Oui, aiguë de son rapport unique avec Dieu son Père. Une relation unique avec le Père. Une relation qui est le centre même de sa personne divine. Une relation, toute proportion gardée, à laquelle nous sommes appelés. Mais trois obstacles majeurs l'empêchaient de révéler trop rapidement la profondeur de ce mystère, qui est son mystère. Il y avait une mentalité religieuse, à l'époque façonnée par l'affrontement avec toute l'idolâtrie des autres pays autour, des autres peuples. Les Juifs n'étaient pas prêts à accepter que Dieu se soit incarné. Tout ce qui coïncidait pas strictement avec la profession de foi monothéiste là, qu'on voit dans le Deutéronome, chapitre 6, verset 4, vous vous souvenez? « Écoute, peuple d'Israël, le Seigneur seul est notre Dieu, le Seigneur seul est notre Dieu. » Ça, c'est la foi des Juifs, elle est belle aussi, cette foi. Mais c'était considéré d'emblée comme idolâtrique, tout ce qui n'était pas conforme à ça. Une mentalité religieuse aussi qu'ils avaient, qui estimait, et qu'ils ont toujours, les Juifs séparés de l'Église, qui estimaient essentiel l'obéissance à la loi de Dieu promulguée par Moïse. Ils se méfiaient de tout discours trop explicite sur la nature de Dieu. Cette réflexion sur la nature de Dieu s'était jugée inutile, impossible, même sacrilège. Ils avaient aussi une mentalité religieuse qui était structurée par l'attente de la venue imminente du royaume des cieux. Ça existe encore aujourd'hui, ça, même chez les chrétiens. On pensait que la fin de toute chose était proche, et que cette fin verrait le triomphe de Dieu sur tous les ennemis d'Israël. Et cette attente était si vive que même après la résurrection, elle habitait encore le cœur des disciples, nos ancêtres dans la foi. On voit ça au premier chapitre du livre des Actes, verset 6. Là. Ceux qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandaient alors, « Seigneur, est-ce en ce temps-ci là que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Alors, prudence oblige, nous voyons Jésus procéder par trois étapes. La plupart des exégètes les ont plus ou moins repérées, ces trois étapes. Il y a l'enseignement public de Jésus, puis il y a l'enseignement des apôtres, puis il y a l'enseignement de Jésus à un cercle plus restreint. L'enseignement public de Jésus, bien, Jésus a été perçu par l'ensemble de ses auditeurs comme quoi? L'ensemble des auditeurs percevait Jésus comment? Comme un blasphémateur qui se fait l'égal de Dieu. Oui, c'est comme ça qu'il était perçu par l'ensemble des gens. Dès les débuts de son ministère, il scandalise par sa façon de s'attribuer toutes sortes de prérogatives divines. On dit, comment peut-il parler ainsi? Il blasphème. Qui peut remettre les péchés sinon Dieu seul? C'est dans Marc au chapitre 2, ça. Puis, lors de sa comparution devant les autorités juives, souvenez, l'accusation de blasphème est formulée explicitement. C'est dans Matthieu, chapitre 26. « Il a parlé contre Dieu. » Jésus vient de proclamer qu'il siège à la droite du Dieu puissant. Puis il est perçu aussi par les gens comme un législateur qui bouscule la loi de Dieu. C'est pas un observant. Dès les débuts de son ministère, il parle avec autorité. Au lieu de répéter puis de commenter l'enseignement de la Torah, Jésus, quoi, se permet de donner un enseignement nouveau et de contredire, par exemple, la législation du Deutéronome sur le divorce. Il le fait à l'aide de formules qui n'ont aucun parallèle dans l'Ancien Testament, puis dans tout le judaïsme. Il est très audacieux, Jésus. Il ne dit pas, comme tous les prophètes, « Ainsi parle le Seigneur votre Dieu ». Jésus affirme tranquillement, « Il a été dit, moi, je vous dis ». Et il s'agit d'une parole absolument authentique de Jésus, là, comme presque tous les exégètes le reconnaissent. C'est pas des inventions, ça. Jésus dispose souverainement de la loi puis de la tradition juive, qu'il interprète, qu'il approfondit, et même qu'il corrige. Il s'égale à Dieu. La véritable eau vive n'est pas celle qui a jailli dans le désert sous le bâton de Moïse. Il dit que c'est lui qui la donne. La véritable manne qui vient du ciel. C'est lui, la vraie lumière du monde, le vrai temple de Dieu même, c'est encore lui, dit-il. Autant d'affirmations qui sont insupportables pour une oreille juive. Et les gens qui l'écoutaient entendaient qu'il était le Fils. Dans la parabole des vignerons homicides, vous vous souvenez des vignerons homicides, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, il se présente comme le Fils bien-aimé, c'est dans Saint Marc au chapitre 12, je ne peux pas vous la lire là. Il se présente comme le Fils bien-aimé, à la différence des prophètes qui ne sont eux que les serviteurs du maître de la vigne. Bon, passons maintenant à l'enseignement qu'il donne à ses apôtres. Très souvent, les évangélistes distinguent deux sortes d'enseignements donnés par Jésus. Ils disent, au Marc chapitre 7, ça, ils disaient aux foules, puis ils disaient aux disciples. Alors, c'est pas pareil, les foules, les disciples. Or, Jésus manifeste davantage à ses apôtres le mystère de son identité. Il se révèle comme le Fils du Père, que lui seul connaît et que lui seul peut faire connaître. Il y a le célèbre passage de Saint Marc au chapitre 13 où Jésus, tout en se désignant du nom de Fils, il affirme ne connaître ni la date ni l'heure du dernier jour. Non, voilà une parole qui est certainement authentique. Pourquoi? Ce n'est pas la première communauté chrétienne qui a pu inventer une parole qui semble affirmer une limitation de la science du Christ. Or, au moment même où Jésus exprime son ignorance, là, il se présente comme le Fils, puis il présente Dieu comme le Père. Une façon toute nouvelle de parler des rapports de l'homme avec Dieu, et la façon qu'avait Jésus de prier, qu'il enseignait à ses disciples. Le Fils qui ose appeler Dieu Abba, je veux dire Papa. Le mot avait tellement frappé les disciples que les premiers chrétiens avaient pris l'habitude de prier de cette façon-là. Hein, on trouve ça dans l'Épître aux Galates, en Romain. Il exprime, Jésus, au minimum, une relation d'amour étroite entre son Père et lui, par ce mot « Abba ». S'exprime là une familiarité qui contraste très, très étrangement avec l'attitude des Juifs de l'époque lorsqu'ils invoquaient Dieu, dont ils n'osaient même pas prononcer le nom. Vous savez, dire à Dieu « notre Père », Abba, Papa. Essayez au fond de votre cœur, des fois, même à la messe, au fond de votre cœur, dites Papa, Papa. Et vous verrez, au fond de votre cœur, naître une relation si douce avec Dieu, si tendre, si belle, qu'elle se modèle sur celle de Jésus. Et c'est une façon d'imiter Jésus. Saint Jean énonce une vérité très belle à la messe aujourd'hui, à la fin de son épître qui nous est citée par l'Église et qui nous est soumise à notre réflexion aujourd'hui, et en nourriture aussi, car ces textes nous nourrissent. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit tout cela, dit Saint Jean, pour vous faire savoir que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Or, l'enseignement de Jésus s'est fait aussi à un cercle plus restreint, vous ai-je dit. Et c'est là qu'on trouve les plus belles choses. Plusieurs indices nous permettent d'affirmer l'existence d'un groupe privilégié de disciples à l'intérieur de la communauté du tout début de l'Église, la communauté apostolique. À trois reprises, Jésus prend plutôt avec lui Pierre, Jacques et Jean. Et c'est pour la guérison de la fille de Jaïr, la transfiguration, puis l'agonie. Et d'autre part, nous avons de sérieuses raisons de penser que l'apôtre Jean est l'auteur du quatrième évangile, où il y a des réserves. Grâce à un témoignage de saint Irénée, le second évêque de Lyon, mort vers l'an 202 et dont je vous ai déjà parlé, nous savons que l'apôtre Jean est réellement l'auteur du quatrième évangile, parce que saint Irénée a connu en effet dans sa jeunesse le vieil évêque de Smyrne, saint Polycarpe, dont je vous ai aussi parlé, lequel, saint Polycarpe, avait été lui-même le disciple de saint Jean. Et saint Polycarpe avait affirmé à saint Irénée que l'apôtre saint Jean avait écrit son évangile pour combattre l'hérésie de Cérinthe, cette hérésie gnostique de la fin du premier siècle qui attribuait la création à un démiurge distinct de Dieu et qui ne croyait pas à la divinité du Christ. Et si le quatrième évangile est d'origine joannique, comme on dit, d'origine de saint Jean, nous ne devons pas nous étonner d'y trouver des confidences de Jésus sur la façon dont il vivait, sa relation très intime avec son père. J'ai dit ce que j'ai vu et entendu auprès du père. Chapitre 8. Le fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au père. Chapitre 5. Alors, loin d'être des créations des premières communautés chrétiennes, des formules comme ça, qui sont très denses et qu'il faut méditer presque à genoux, là, ça reflète quoi? Ça reflète la conscience qu'avait Jésus lui-même de sa filiation divine. Il le savait. Conscience qui s'exprimait davantage dans ses conversations avec Saint Jean, son disciple bien-aimé. On ne doit pas se scandaliser parce que Jésus aurait donné à un petit groupe restreint de disciples une révélation plus profonde du mystère de son identité. Le Fils de Dieu, fait homme, s'est en quelque sorte adapté à une loi qui est bien connue dans la communication humaine. Les maîtres spirituels, les grands maîtres spirituels, ont toujours constaté que parmi leurs disciples s'en trouvaient quelques-uns ou quelques-unes, avec lesquels l'échange pouvait être plus profond, alors ils les regroupaient à part. Et ce sont tous ces comportements, toutes ces confidences de leur maître, qui ont permis aux apôtres de croire avec tant d'assurance après sa résurrection d'entre les morts que Jésus était en vérité le Fils de Dieu. Plus d'une fois, Jésus leur avait fait entrevoir la relation incomparable qu'il vivait avec son Père, puis le désir qu'il avait de les y introduire. Souvenez-vous de ce beau texte. « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux savants, et de l'avoir révélé aux tout-petits. Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir, tout m'a été remis par mon Père. Et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Mais c'était aussi en public que Jésus avait proclamé sa mystérieuse identité. C'est arrivé, oui, plus d'une fois, on le voit échapper de justesse à une lapidation, suite à des paroles qui étaient jugées intolérables et qu'il ose prononcer au terme d'une discussion avec des autorités religieuses de Jérusalem. Souvenez-vous, c'est dans Saint Jean, chapitre 8, verset 58. « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Je suis. » Et dans Saint Jean, chapitre 10, verset 30, il dit, « Personne n'arrachera mes brebis de ma main. Nul ne peut rien arracher de la main du Père. Or, moi et le Père, nous sommes un. » On dira que ce sont des textes inventés. Je n'en crois rien. Il y a là des vérités qui sont lumineuses, éblouissantes. Jésus n'avait pas une pierre pour reposer sa tête, dit Matthieu, chapitre 8, mais il n'était certainement pas un vagabond sans feu ni lieu. Il savait d'où il venait et où il allait. D'où il venait, son Père. Où il allait, à son Père. Il les a même affirmé qu'il était pour tous la route vers lui. Il est la route vers Dieu. Dans Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Cette conscience qu'avait Jésus d'être le Fils de Dieu n'est en réalité qu'une conséquence du mystère de l'incarnation que nous venons de célébrer, tel qu'il a été défini par les premiers conciles écuméniques de l'Église catholique et orthodoxe à la fois. Nous étions unis dans ce temps-là. Le Christ avait deux natures, divine et humaine. C'était confirmé dans le concile de Chalcédoine en 451. Il avait deux volontés. Là, c'est dans le concile de Constantinople, le troisième, en 681. Mais il n'y avait en lui qu'une seule personne, la personne même du Fils éternel de Dieu. Là, c'est défini par le concile d'Éphèse en 431. Son moi le plus profond, son moi unique, était celui-là même que le Père ne cesse d'engendrer, et non de créer, là, en lui disant « Mon Fils bien-aimé ». Comment sa conscience aurait-elle pu ignorer quelle était la conscience humaine d'un moi divin, du moi dont toute la vie consiste à se recevoir perpétuellement du Père, puis à bondir vers lui, et à nous entraîner à bondir avec lui vers Dieu? C'est ça qu'on fait à la messe. Allez à la messe si possible tous les jours et bondissez vers le Père en compagnie de Jésus. Bondir, c'est comme un enfant qui saute dans les bras de son père. Mystère. Mystère qui nous donne évidemment le vertige. Mais c'est un mystère qui suscite aussi notre adoration et notre jubilation. Jésus était vraiment, dès le premier instant de sa conception, l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu en personne venu nous visiter. C'est pour ça que je vous ai fait cette émission aujourd'hui, à la suite de Noël. Je reviens au texte de l'Épître aux Philippiens. Il possédait, depuis toujours, la condition divine. Mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes. Il a paru dans une situation d'homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité. Et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est plus important que tout autre nom, afin que, par respect pour le nom de Jésus, tous les êtres qui se trouvent dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux, et que tous proclament que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.